Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Plus de 9 personnes tuées, une dizaine de maisons incendiées et plusieurs biens pillés. Ces crimes sont attribués aux ADF dans une nouvelle attaque survenue dans la nuit de mardi à ce mercredi à Oicha, non loin de la ville de Beni. Ce bilan est encore provisoire, précise des sources de la société civile locale, mais un calme précaire semble régner dans la région ce mercredi soir. La RDC est aussi concernée par le projet de la voie ferrée de Lobito, car elle devra déboucher notamment vers la ville de Kolwezi dans le Lualaba. Ce projet est l'un des points au centre du séjour du président des États-Unis d'Amérique en Angola depuis 48 heures. Le chef de l'État congolais séjourne lui aussi à Luanda en Angola, toujours dans le cadre de ce projet, un projet qui a bénéficié des financements de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord des FRDC et l'invité de ce journal, le colonel Mark Azukai, va parler de la multiplication des attaques par des ADF ces derniers jours dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information. Au Nord Kivu, au moins 9 civils ont été tués, une dizaine de maisons incendiées et plusieurs biens pillés lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF. Attaque survenue dans la nuit de mardi à ce mercredi à Oicha, à 30 km de la ville de Beni. Selon des sources de la société civile locale, le bilan reste provisoire, mais un calme précaire semble régner dans la région ce soir. Les détails avec André Kitenge.
L'attaque des ADF à Oicha a eu lieu aux alentours des 19h heure locale. Les assaillants ont ciblé le quartier de Bakila-Tenambo, situé en périphérie de la cité. L'attaque, qui a impliqué l'usage d'armes à feu, a duré près d'une heure, les ADF s'attaquant principalement aux populations civiles. Selon des sources locales, le bilan provisoire fait état de 9 personnes tuées, dont 7 femmes et un enfant, ainsi que 4 blessés et plusieurs disparus. La plupart des victimes ont été tuées par balles et à l'arme blanche. En outre, des maisons et des boutiques ont été pillés avant d'être incendiés par les assaillants, provoquant le déplacement des habitants vers des zones plus sécurisées, notamment au centre commercial de Oicha. L'armée intervenue pour repousser les assaillants indique que toutes les dispositions sont prises pour traquer ces rebelles. Son porte-parole, le colonel Makazukai, invite les habitants à se rapprocher des positions militaires et à éviter de se rendre dans les villages reculés. Il ajoute que 2 otages ont été libérés par l'armée. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Lubero, toujours au Nord Kivu, plus de 5000 ménages de déplacés vivent sans assistance à Mangurejipa, Kambau et Njapanda dans le secteur de Bapere. Il s'agit des personnes qui ont fui leur village à cause des attaques des rebelles des ADF depuis juin dernier. Dans un document adressé au gouverneur de province ainsi qu'aux partenaires humanitaires ce mercredi, les autorités locales appellent à une assistance d'urgence en faveur de ces personnes vulnérables. Guylaine Kassassia nous fait le point.
Ces déplacés qui ont tout perdu au moment de leur fuite vers le secteur de Bapere en juin dernier vivent dans des conditions extrêmement difficiles dans des familles d'accueil. C'est notamment les manques d'eau, des médicaments, de nourriture en plus d'être sans abri. Selon la note adressée aux gouvernants de province et aux humanitaires, 76 villages se sont vidés de leurs habitants sur les 141 qui comptent le secteur de Bapere. Toujours selon cette même note, l'eau est devenue rare avec l'afflux des déplacés dans cette région où plus de 14 bonnes fontaines ne sont plus opérationnelles, ce qui pousse certains déplacés à s'approvisionner dans des sources non entretenues avec comme conséquence l'apparition de maladies hydriques. Pire, ces déplacés manquent des latrines, ce qui les contraint à déféquer en plein air. À ces tableaux sombres s'ajoute l'impossibilité pour certaines familles d'accueil d'accéder à leurs champs à cause de la sécurité et surtout des opérations militaires en cours dans la zone. Les chefs du secteur de Bapere plaident en faveur d'une assistance humanitaire et urgente, notamment en médicaments, vivres non vivres, abris provisoires, mais aussi de latrines pour permettre à ces personnes de vivre dans des conditions décentes.
Le Nord Kivu dispose désormais d'une équipe provinciale intégrée de transition auprès de la MONUSCO. Le protocole de mise en place de cette équipe a été signé dans la soirée hier mardi par le chef de bureau de la MONUSCO et le gouverneur militaire intérimaire, général-major Peter Chirimwa Minkuba. Pour le chef de bureau de la MONUSCO Goma, l'équipe forme le cadre stratégique multi-acteur d'orientation, de coordination et d'évaluation du mécanisme provincial de transition et de désengagement de la MONUSCO, et même si la date du retrait de la mission onusienne n'est pas encore précisée. Omar Aboud est dans cet extrait choisi par Bernard Denyangui.
Comme vous savez, il n'y a pas une date précise pour lancer le processus de désengagement et de transition, mais c'est important de commencer le travail de maintenant. C'est pourquoi nous sommes ici pour signer les deux décrets. C'est le gouverneur qui a signé ça. Nous sommes ici pour faire le suivi et pour soutenir le gouvernement. Nous continuons à effectuer notre mandat clé qui est protection des civils dans la province, mais dans le pays, surtout maintenant, on est toujours dans la province de Nord Kivu et Ituri, jusqu'à le dernier jour. Alors pour nous, c'est très important, on continue à soutenir nos partenaires, le côté militaire, les FRDC, mais aussi le côté d'administration, le gouverneur, des institutions étatiques. Bon, il n'y a pas une date pour commencer la transition, mais le moment, il y a une décision au niveau de Kinshasa en consultation avec notre chef. Avec la décision du Conseil de sécurité, on peut lancer la transition.
Le président de la RDC est arrivé ce mercredi matin à Lobito en Angola pour participer à la rencontre multilatérale sur le corridor de Lobito. Félix Tshisekedi rejoint ses homologues Joe Biden des États-Unis d'Amérique, João Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie ainsi que le vice-président de la Tanzanie. Cette réunion multilatérale autour du corridor de Lobito vise à redynamiser ce projet stratégique soutenu par les États-Unis et qui consiste à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito devrait faciliter le transport des produits miniers, notamment le cuivre et le cobalt. Selon la presse présidentielle, le président Félix Tshisekedi devrait également rencontrer en tête-à-tête son homologue américain Joe Biden, arrivé pour la première fois en Afrique. Vous l'avez suivi, la RDC est aussi concernée par ce projet du corridor de Lobito. Mais quel bénéfice va-t-elle en tirer? Tentative de réponse avec vous, Jean Gandou.
Le port de Lobito est une aubaine pour l'économie congolaise, notamment dans le cadre des échanges commerciaux. La voie ferrée qui mène à ce port à partir de la RDC offre plusieurs avantages aux opérateurs économiques. Généralement, les miniers du Lualaba et du Haut-Katanga évacuent leurs produits par le port de Djouba en Afrique du Sud, ou par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. Et ce sont plus de 3000 km à parcourir. Le premier avantage s'est défini donc en termes de temps. Pour aller au port de Durban, les camions mettent 25 jours. En revanche, pour atteindre le port de Lobito, la durée est réduite à 8 jours. Et la distance est d'environ 1600 km, ce qui constitue un gain considérable. Les miniers du Lualaba et ceux du Haut-Katanga pourront également faire passer leurs importations par ce port. Pour Justice ASBL, une ONG de défense des droits de l'homme, la reprise du trafic et la réhabilitation de cette voie ferrée devraient en principe avoir aussi des effets collatéraux sur les entités directement impactées par l'exploitation de cette voie ferroviaire. Timothée Mbouya.
C'est une très bonne opportunité pour relancer l'économie. La justice demande que les besoins des communautés soient priorisés dans ce projet. On prenne par exemple en compte le besoin en développement des infrastructures, en développement de l'agriculture ou en développement d'autres besoins sociaux.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans l'ouest du pays, l'ASBL, Conseil provincial du paysan congolais, COPROPAC, déplore le manque des intrants et de tout le nécessaire pour permettre aux paysans de la province du Kwango d'augmenter leur production agricole. Il s'agit entre autres des semences, des matériels, sans oublier des routes de dessert agricoles, ainsi que l'encadrement de ces paysans. Dans une déclaration ce mercredi à Radio Kapi, son président, Symphorien Kwengo, dit avoir écrit à l'ambassadeur de la Belgique en RDC pour lui demander de permettre la reprise des activités de son service technique, Enabel, afin d'appuyer le secteur agricole au Kwango. Il l'a dit au micro de Irène Bomaluzolo.
Les paysans congolais manquent ce qu'il lui faut pour augmenter sa production agricole. Il n'est pas encadré et appuyé. Les routes de dessert agricoles, pour lui permettre d'évacuer sa production agricole, ne sont pas entretenues. C'est depuis la fin du projet appui au secteur semencier ACES et le projet programme de développement agricole et de désenclavement du Kwilu-Kwango, financé par le gouvernement belge via la CTB, qui avait pris fin en 2018, que le calvaire du paysan congolais avait commencé. Face à cette situation, notre plateforme, le Conseil provincial des paysans congolais, COPROPAC ASBL, a écrit à l'ambassadeur de la Belgique en RD Congo pour l'inviter à bien vouloir demander à son service technique Enabel de pouvoir reprendre les activités d'appui au secteur agricole dans la province du Kwango. Aussi, nous demandons à d'autres partenaires de venir appuyer la province du Kwango qui regorge beaucoup de potentialités dans ce secteur.
Ici à Kinshasa, le projet de budget 2025 a été examiné en seconde lecture hier mardi au Sénat après son adoption à l'Assemblée nationale. Il est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. Après un débat général de plus de 6 heures, la loi des finances de l'exercice 2025 est déclarée recevable par la plénière du Sénat et envoyée à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. Michel Kifindangoy.
Dans sa présentation de l'économie du budget 2025 au nom de la première ministre empêchée, le ministre d'État en charge du budget souligne que ce projet est assis sur quelques indicateurs macroéconomiques, parmi lesquels le taux de croissance du PIB qui s'élève à 5,7%, le taux d'inflation moyen de 10,3%, ainsi que le taux d'échange moyen de 2954 francs congolais par dollar. Pour Aimé Boji Sangara, ce budget connaît un accroissement de 18% des crédits alloués aux investissements, 16% du secteur de l'agriculture, pêche et élevage et 25,2% à la sécurité en vue de la montée en puissance de l'armée et des forces sécuritaires. Parmi les investissements envisagés dans ce budget, le ministre Aimé Boji cite la poursuite de la mise en œuvre du PEDEL 145 territoires, la construction du port en eau profonde de Banana, de la route Mbujimayi-Bukavu, ainsi que la modernisation de quelques aéroports dans plusieurs villes du pays.
Désormais, tous les koulounas ou gangsters seront exécutés. Dès aujourd'hui commencent les audiences publiques foraines contre le banditisme urbain à Kinshasa et en province. Ainsi en a décidé la commission spéciale dite Kuluna Zero, mise en place au cours d'une réunion hier mardi au ministère de la Justice pour lutter contre l'insécurité et les nuisances sonores dans les grandes villes de la RDC. L'annonce est faite par le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, en exécution des instructions du président de la République. Selon le ministre, faisant référence à la Bible, « Qui tue par l'épée ?» périt par l'épée. La commission est composée des membres du ministère de l'Intérieur, de la Justice, ainsi que des hauts magistrats, auditeurs militaires et des agents de sécurité. Le ministre annonce également des bouclages dans les quartiers et rues de la capitale. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jeff Ngoy.
Il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. La commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêtés, jugés, condamnés au terrorisme, sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Kuluna qui sont condamnés cette semaine sera évacué à Nginga et dans d'autres prisons déjà ce week-end. Des bouclages seront organisés dans les quartiers.
Une autre mesure phare prise par cette commission consiste à traquer les auteurs des nuisances sonores, diurnes et nocturnes. Tous ceux qui dérangent la quiétude des voisins seront non seulement interpellés, mais se verront également confisquer leurs instruments de nuisance et payer des lourdes amendes, d'après Constant Mutamba. Au Congo central, 6 morts et 7 blessés, c'est le bilan des dégâts causés par une grande pluie qui s'est abattue l'après-midi d'hier mardi sur la ville de Matadi. Le maire de la ville de Matadi qui annonce ce bilan indique que les parties de la ville non construites durant l'époque coloniale sont les plus touchées, car les maisons y sont construites sans respect des normes urbanistiques. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambo.
Nous sommes arrivés sur les lieux pour évaluer les dégâts. Alors, à ce niveau-là, à Bouima, nous avons trouvé un mur qui est tombé sur une femme. Elle est morte sur place. Il y a eu des blessés aussi, 3 ou 4 qu'on a acheminés à l'hôpital. Alors, vers Commanda, un véhicule a voulu braver les eaux qui venaient avec pression. Le véhicule était emporté, on a réussi quand même à extraire quelques personnes, mais il y a un mort là-bas aussi. Vers régie des hommes voies au-dessus là-bas, un enfant aussi a coulé. On l'a récupéré, déjà mort. Vous allez vers Ndemba, une maison s'est écroulée. Il y a une maman et son enfant qui sont décédés. Nous avons enregistré des dégâts comme ça, des pertes en vie humaine. C'est 6 morts et 7 blessés graves qu'on a acheminés à l'hôpital. Les dégâts matériels sont très, très, très importants. Les maisons qui se sont écroulées, les murs, mais les dispositions sont en train d'être prises pour trouver des solutions rapidement à ces problèmes. Parce que dans tout ça, il faut aussi comprendre qu'il y a un problème d'urbanisation. Vous voyez, la partie où les Belges avaient construit, il n'y a pas de dégâts comme ça.
Actualité internationale.
Au Niger, Moussa Tchangari, figure de la société civile nigérienne, a été enlevé hier mardi soir à Niamey. Le secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen se trouvait chez lui lorsque des hommes armés l'ont amené des forces sans fournir la moindre explication. L'association alternative Espace Citoyen dit avoir entrepris des recherches dans plusieurs lieux officiels de privation sans succès. L'association n'accuse personne mais souligne que d'autres citoyens ont subi le même sort avec le même mode opératoire avant de réapparaître plusieurs jours plus tard pour être officiellement mis aux arrêts. Moussa Tchangari est connu pour sa défense des libertés et ses positions contre les bases militaires françaises. Il critique aussi ouvertement plusieurs décisions des pays de l'AS dans le Niger, comme la récente déchéance de nationalité de plusieurs figures politiques du pays ou encore le retrait des agréments d'ONG le mois dernier.
L'invité.
Depuis près d'un mois, les ADF multiplient les attaques dans le territoire de Beni au nord Kivu. La dernière incursion de ces rebelles s'est déroulée à Oicha, chef-lieu du territoire, où au moins 9 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord des FRDC, le colonel Makazukai, évoque des ADF traqués dans la partie ouest de la route nationale numéro 4 et qui cherchent à regagner leurs anciens bastions dans le triangle dit de la mort entre Oicha, Mbao et Kamango. Il assure que des mesures ont été prises pour protéger la population et invite cette dernière à ne pas céder à la manipulation, mais plutôt à faire confiance au FRDC ainsi qu'à leurs partenaires ougandais des UPDF et de la MONUSCO. Le colonel Makazukai est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Colonel Makazukai, bonjour.
Bonjour.
Les attaques des ADF se sont multipliées ces dernières semaines dans la région de Beni. Comment les FRDC expliquent-elles cette recrudescence malgré les efforts des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises?
Nous avions alerté il y a de cela quelques jours que l'ennemi s'était infiltré avec l'intention de revenir dans ses anciens bastions.
En provenance d'où ?
En provenance de l'ouest de la nationale numéro 4. Et aussitôt informés, nous avons pris des dispositions pour l'éradiquer. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Ce groupe s'est manifesté sur la route Eringeti-Kainama, dernièrement aussi sur la route Mbao-Kamango. Hier soir, c'est encore Tenambo qui a été touché. Nous pensons que cette guerre que nous menons contre le terrorisme, nous ne la menons pas seul, nous la menons avec nos partenaires, que ce soit l'UPDF ou la MONUSCO, y compris la population. Et nous sommes touchés lorsque l'ennemi nous échappe et vient commettre des crimes dans des agglomérations.
Certaines sources parlent des groupes des ADF qui étaient en mouvement vers l'Ituri et qui ont l'intention de revenir dans les territoires de Beni et cherchent activement des chemins pour y créer des bastions.
À un moment donné, nous avions le contrôle de ces anciens bastions et là où ils s'étaient retirés, à l'ouest de la nationale numéro 4, ils faisaient pas beau vivre et c'est ainsi qu'il est en train de chercher à revenir dans le triangle dit de la mort. C'est vrai, il est en train de manœuvrer parce que les gens doivent savoir aussi que l'ennemi n'est pas bête. L'ennemi essaie d'exploiter certains éléments pour essayer de se reconstituer. Mais je pense que avec le concours de la population, nous allons localiser et détruire le groupe qui est en train de errer dans le triangle de la mort.
Quelles mesures concrètes les FRDC et leurs partenaires comptent-elles adopter pour renforcer l'efficacité des opérations contre les ADF?
Non, partenaires, nous sommes soucieux de la situation. Lorsque ça se dégrade comme ça, ça nous inquiète tous. La seule chose que je peux dire à la population, c'est de doubler vigilance, d'éviter de fréquenter les profondeurs de la nationale numéro 4. Surtout l'Est pour l'instant, parce que c'est là où l'ennemi est en train d'errer. Aussi, je tiens à dire à l'opinion que cette nouvelle, cette énième incursion ne doit pas constituer une occasion pour nous diviser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront tentés d'exploiter cela pour diaboliser tel ou tel autre partenaire. Nous pensons que nous devons travailler ensemble. Je parle de nos partenaires et nous, y compris la population. Donc quand je parle de partenaires, je vois l'UPDF, je vois la MONUSCO qui est dans la zone et nous, nous attirons l'attention de la population pour qu'elle ne soit pas manipulée. Parce qu'il y a des gens qui vont saisir cette occasion pour dire que si ça n'a pas marché, c'est telle ou telle autre personne, c'est telle ou telle autre partenaire, ce n'est pas ça. Il n'y a personne qui peut être contente de la dégradation de la situation sécuritaire. Donc, nous devons rester ensemble, rester soudés, travailler pour que la paix revienne. Effectivement, je viens de le dire, c'est un travail de longue haleine.
Colonel Mac Azoukai, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi, mis en onde par Dieudonné Nyangasa, sous la coordination de Richard Junior Kamonga Mboa Chimakinda, le tout supervisé par Pele Kipelamondo. Restez à l'écoute des programmes des Radio Okapi, le média de la paix.